sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
C'est un événement attendu le deuxième mercredi de juin, la remise solennelle des Grands Prix de l'Institut de France. Écoutez la retransmission intégrale de cette cérémonie sous la coupole qui a eu lieu en 2009, le mercredi 10 juin. Découvrez les lauréats. Chacun s'est vu remettre son prix par un académicien qui le présente en quelques mots. Dès l'ouverture de cette cérémonie, vous entendrez le chancelier de l'Institut de France, Gabriel de Breuil, présenter le nouveau visage du mécénat contemporain, puis Jean Salençon de l'Académie des sciences qui dresse un panorama de l'ensemble des actions des nombreuses fondations abritées par l'Institut de France dans les multiples domaines qu'elles soutiennent, recherche scientifique, action humanitaire, patrimoine culturel, projet d'éducation et de formation, projet de développement durable ou environnemental. Et enfin, la proclamation des Grands Prix de l'Institut de France. Chaque lauréat est présenté par un académicien spécialiste de la discipline concernée et vous entendrez aussi le son de la vidéo qui présente les lauréats dans leur milieu de travail.
La séance est ouverte. Madame l'ambassadeur, monsieur le premier président de la Cour de cassation, mesdames et messieurs les représentants des ministres, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les fondateurs, monsieur le chancelier, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames et messieurs. Pour la cinquième année consécutive, nous nous réunissons aujourd'hui sous la coupole pour la remise des grands prix des fondations de l'Institut de France. 5 ans. 5 ans constituent pour l'Institut de France un véritable cycle. En effet, l'Institut voit chaque année sa présidence assurée par l'une des 5 académies qui le constituent. 5 ans, cela signifie donc que chacune de nos académies a maintenant, à son tour, pris le soin de veiller sur cette manifestation et a pu pleinement considérer le travail exceptionnel réalisé par les fondateurs au sein de notre maison. Les membres de l'Institut n'ont d'ailleurs eu de cesse de mettre leur expertise au service de cette œuvre généreuse, notamment pour sélectionner les candidats les plus dignes de voir leur projet couronné par les prix et les subventions remis chaque année. Pour présenter les lauréats de nos grands prix, interviendront successivement au cours de cette séance M. Gérard Hort, M. Christian Dumas, M. Michel Albert, M. Alain Carpentier, M. Michel Lazinski, M. Gérard Laumont et Mme Hélène Carrère-Dancos. Je vais auparavant céder la parole à M. Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut, pour son discours sur le métier de mécène.
L'identité de Caius Clinius Maecenas n'est pas forcément familière à nos contemporains, sans doute en raison de l'époque où il vécut, au 1er siècle avant notre ère. Il est plus connu sous le nom francisé de Mécène, cet homme politique romain, proche de l'empereur Auguste, est célèbre pour avoir consacré sa fortune et son influence à promouvoir les arts et les lettres. Virgile, Properce, Horace lui rendirent en hommage ce qu'ils avaient reçu de lui en bienfait. Exemple rhétorique d'antonomase, Mécène est devenu un nom commun qui désigna dès le Moyen-Âge les hommes qui accordent leurs bienfaits aux artistes. L'ultime étape de ce passage d'un nom propre à un nom commun eut lieu en 1935, lorsque l'Académie française transforma le M majuscule en minuscule. Aujourd'hui, le mot mécène désigne une personne qui encourage et subventionne les lettres, les arts ou les sciences. Ceux qui nous font l'amitié d'être présents sous cette coupole et que je salue aujourd'hui savent que leur grandeur ne réside pas dans la majuscule de leur appellation. Immenses sont leur désintéressement et leur générosité. Ils sont les dignes descendants de ces grands personnages qui, à travers les siècles, ont soutenu de leur influence ou de leur fortune un artiste ou une œuvre, permettant à leur époque de garder son éclat par-delà le temps et les modes. Cette pratique, réservée il n'y a pas si longtemps encore à une élite restreinte et cultivée, a connu une mue spectaculaire. D'un personnage prodigue, raffiné, recherchant la beauté et les œuvres d'art pour son plaisir ou sa renommée, le mécène s'est transformé en un personnage engagé, déterminé, souvent discret et surtout conscient des répercussions sociales de ses volontés généreuses. La relation avec l'Institut de France s'inscrit dans l'histoire. La mission du mécénat lui est consubstantielle. Elle l'était déjà dans les académies royales et ne s'est jamais démentie. À l'orée du XXIe siècle, l'Institut de France a vu, grâce à l'engagement de Pierre Messmer, se créer en son sein d'importantes fondations, et ce flux ne s'est pas tari depuis. L'apparition ces dernières années d'une nouvelle philanthropie a vite pris le tour d'un phénomène social. Des particuliers et des entreprises se sont fait à leur tour mécènes en France, à l'instar des traditions vivaces dans les pays anglo-saxons. Et l'on voit apparaître au fil des ans des mécènes pour lesquels la philanthropie est le moyen d'accomplir une œuvre personnelle et qui investissent de leurs aspirations le destinataire de leur libéralité. Le nouveau mécène suit le déroulement de son projet en s'y impliquant personnellement. Il choisit les bénéficiaires de ses largesses et recherche une relation avec lui. Il n'entreprend pas une action isolée et ponctuelle qui ne lui survivra pas. Il s'insère dans un contexte social, se joint à d'autres, intéresse ses proches de son vivant et leur transmet la charge de continuer son œuvre. Là où il y a peu, on ne voyait qu'une vocation altruiste et où la rentabilité avait peu de raison d'être, le mécénat est en train de devenir un métier au sens d'une pratique fondée sur des règles visant à obtenir un certain résultat. Nous disposons de peu de recul pour juger aujourd'hui des transformations du mécénat, mais il apparaît que l'un de ses traits est bien une rationalisation des méthodes. Quels que soient les domaines d'intervention, l'action du mécène recherche l'efficacité. Les mécènes cernent de près les objectifs qu'ils poursuivent, apporte à la détection des besoins non satisfaits, qui sont souvent les plus pressants, leur perspicacité et leur énergie. Cette tâche demande une bonne connaissance du terrain, la possession de données que les mécènes acquièrent par des lectures, des déplacements, voire des études de marché, des contacts sur le terrain avec les responsables bénévoles qui ont, eux, une grande force de conviction. Pour être plus efficace, il y a certes l'investissement personnel, mais surtout l'appel à des professionnels, aussi bien de l'humanitaire que de la finance. Faudrait-il, comme en d'autres métiers, redouter les effets d'une excessive professionnalisation, pire, d'une financiarisation du mécénat ? La question n'est pas anodine. Si les mécènes s'entourent de personnes spécialement formées pour rendre leurs dons le plus rentable possible, ne risque-t-il pas de perdre de vue l'élan initial ? Je ne le pense pas. Bien au contraire, la démarche reste la même. L'impulsion première demeure, qui conduit le mécène à donner une direction nouvelle à son avoir au service des autres. La décision intime, qui a transformé le possédant en donateur, fut bien exprimée dans cette formule de Winston Churchill : l'on vit de ce que l'on obtient, mais l'on construit sa vie sur ce que l'on donne. Au surplus, le mécène se prémunit contre toute sclérose en se tournant précisément vers ceux qui, sur le terrain, prolongent son engagement, incarnent sa vision. Et il est bien naturel que, de cette tribune, après avoir salué les mécènes, je salue et félicite les lauréats avant la remise de leur laurier. Dans les laboratoires, dans les banlieues ou dans les déserts, ces bénévoles sont des veilleurs, des rêveurs, des utopistes, peut-être les derniers aventuriers. Ils ont décidé de donner leur temps, une partie de leur carrière, une partie de leur vie, pour changer pendant une heure, une année, une vie, l'existence de leurs semblables. Enfin, les nouveaux outils du mécénat ne sont pas des fins. Toute aide obéit à des règles. Il ne s'agit pas seulement de débloquer des fonds ou de signer des chèques. Comment agir le mieux possible ? Comment rentabiliser ses actions ? Comment remplir les buts fixés ? Comment obtenir le meilleur retour sur investissement afin d'accroître encore au cycle suivant les sommes engagées ? Les modalités sont multiples, financières bien sûr, mais aussi en nature, technologique, par transfert de savoir ou de compétences. Les mécanismes financiers et les techniques d'assistance vont continuer de se diversifier, devenir plus complexes et exiger des compétences accrues. Le recours à des spécialistes devient indispensable. Ce n'est pas le mécène qui devient un professionnel, ce sont les personnes qui l'entourent, ses collaborateurs, ses conseillers et les acteurs transformant sa démarche en réalité qui s'engagent dans un processus de plus en plus rationnel. Il n'est nullement à craindre que les mécènes perdent leur âme, qu'ils se désincarnent derrière des techniques ou des produits. Il n'est question que de nouveaux moyens pour rendre l'inspiration plus utile. Et de cette transformation, c'est un nouveau mécène armé qui surgit. L'efficacité n'est d'ailleurs pas seule en cause. Il y a dans cette évolution un gage de responsabilité qui est la contrepartie de la reconnaissance officielle du mécénat. Cette reconnaissance, elle fut d'abord législative, avec la loi de 2003 relative au mécénat et aux fondations, puis la loi de 2007, dite TEPA. Elle est également fiscale. Les éditions juridiques produisent des guides de la philanthropie. Les grandes écoles, commerciales notamment, lancent des enseignements spécialisés. Les entreprises accompagnent le mouvement. Table ronde consacrée à la philanthropie entrepreneuriale, création de postes de responsables du mécénat dans les grandes sociétés ou de direction de la philanthropie dans les banques, salon de la philanthropie, et jusqu'au Collège de France qui a confié cette année sa chaire annuelle intitulée « Savoir contre la pauvreté » à Madame Esther Duflo, professeure d'économie au Massachusetts Institute of Technology. Dans quel contexte quel est le rôle de l'Institut de France dans ce contexte ? L'Institut de France conserve lui aussi, avec confiance et fierté, sa vocation traditionnelle, irremplaçable, l'indépendance, la pérennité et l'expertise de ses membres. Le moment est venu de saluer mes confrères qui siègent dans les conseils et les jurys, donnent leur temps sans compter, et se penchent sur les projets proposés à leur évaluation. Les fondateurs sont certains de trouver à l'Institut des interlocuteurs compétents et indépendants qui seront les conseillers sur la définition de leurs objectifs et sur les moyens de les atteindre. La rencontre du mécène et de l'académicien est une rencontre fructueuse. Cette expertise peut concerner nombre de domaines, car grâce à la réunion des 5 académies, le spectre des compétences des membres de l'Institut est vaste. Nous pouvons éprouver, par l'exercice quotidien de nos fonctions, dans les conseils et les jurys, satisfaction et fierté lorsque nous mesurons l'ampleur et la valeur de l'action engagée, et exprimer au nom de mes confrères, aux donateurs, notre profonde gratitude pour la confiance et l'estime qu'ils nous témoignent. Si, en définitive, le mécénat engendre autour de lui des métiers. Le mécène, lui, reste en son fort intérieur, mu par une mission, dont il est l'instrument et qui parfois le dépasse. Une mission qui réunit autour d'elle le Conseil des académiciens et l'action des lauréats, transformant en une réalité généreuse et fraternelle notre utopie commune.
Nous vous remercions, Monsieur le Chancelier, pour ces propos qui ont montré combien les généreux donateurs de l'Institut de France sont aussi des mécènes actifs et dynamiques qui consacrent aux côtés des académiciens une grande partie de leur temps au service des projets qu'ils choisissent de soutenir. Et ce sont ces projets qu'il me revient maintenant de présenter en quelques minutes. Il ne me sera malheureusement pas possible de tous les citer, tant le domaine d'intervention des fondations de l'Institut est vaste. L'art et la culture, la recherche scientifique et médicale, l'action humanitaire, la formation et l'éducation, la protection de l'environnement. J'aborderai ces cinq thèmes. C'est une tradition qui remonte à l'Antiquité que poursuivent l'Institut et ses fondations à travers leurs actions de mécénat dans les domaines artistiques et culturels. Le lait fait à l'Institut par le duc d'Aumale de son fabuleux domaine de Chantilly est bien connu du grand public tant les médias se sont penchés sur les trésors qu'il renferme. Mais c'est la volonté d'un grand mécène qui a permis à la Fondation pour le sauvegarde et le développement de Chantilly d'offrir aux célèbres écuries des princes de Condé une nouvelle jeunesse après une longue campagne de restauration. Très récemment, la collection des peintures que conserve le château s'est encore enrichie du don fait par la Fondation Lefort-Beaumont d'un portrait du Grand Condé, réalisé au XVIIe siècle par le peintre flamand Juste d'Aiguemont. Jean-Baptiste Marie Pierre, nommé au siècle suivant peintre du roi après François Boucher, est l'auteur un peu oublié du décor somptueux qui orne la coupole de l'église Saint-Roch. L'ouvrage qui lui a été consacré par Nicolas Le Sur et Olivier Aron n'aurait pu être publié sans le prix décerné par la Fondation Marianne et Roland Michel. L'édition 2009 du Festival de Bougival a reçu cette année encore l'aide de la Fondation La Forlane pour célébrer l'âge d'or de ces bords de Seine tant aimés des peintres impressionnistes et du compositeur Georges Bizet. Madame Teresa Berganza a illuminé le festival de sa présence en acceptant de donner quelques utiles conseils à de jeunes interprètes dans l'opéra de Mozart Les Noces de Figaro. On commémorait en 2008 le 250e anniversaire de la naissance d'Auguste Isaac Sylvestre de Sacy, qui œuvra sa vie durant à faire de l'orientalisme une discipline scientifique et moderne. Publié en 1806, sa chrestomathie arabe, florilège de textes en prose et en vers, a permis à des générations d'étudiants de découvrir la beauté des images poétiques et la précision de l'écriture historique du monde arabo-musulman. La nouvelle édition de cet ouvrage essentiel a été rendue possible par une collaboration franco-tunisienne soutenue par la Fondation Cora. C'est aussi l'amitié entre la France et l'Orient qu'a célébré cette année la Fondation Simone et Sino del Duca en remettant son grand prix d'archéologie à la mission de Xanthos et du Letton, dirigée par Jacques Descourtis, sur la côte sud de la Turquie, dans l'antique Lycie. Si la mission travaille à la restitution du site grâce à des images numériques, elle compte bien poursuivre sur le terrain la restauration des monuments de cette cité antique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le théâtre du peuple de Bussang, dans les Vosges, incarne la forme intergénérationnelle d'un théâtre pour tous. Le public assiste aux représentations montées par des professionnels et par des amateurs et y découvre les pratiques théâtrales. En lui décernant son prix d'excellence, la Fondation Audience Génération a souhaité saluer le travail réalisé par cette institution vieille de plus d'un siècle. Pour favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture et à ses pratiques, la pianiste Sylvie Sago-Duvauroux part avec son instrument à la rencontre du public des zones rurales dans les écoles, les prisons ou les jardins. Elle propose ateliers et concerts pédagogiques que la Fondation Écarte Pomaret a permis de développer. Faciliter la rencontre entre les œuvres d'art et le public, tel est également l'objet de la Fondation Art Dialogue. Par son action, elle facilite chaque année cette rencontre dans les quartiers urbains en soutenant l'organisation d'expositions en plein air, dans les lieux publics, auxquels participent les spectateurs en inscrivant leurs impressions sur des cahiers mis à leur disposition. Mentionnons aussi les actions des fondations Colette Caillat pour la création contemporaine, Thierry et Annick Desmarais, Empreinte, Henri Gall, Jean, Irène et Barbara Kerschner, Gobi, Yeka, La Planche, Aurélie Nemours et Gisèle Tissier-Grandpierre. J'en viens maintenant à la recherche scientifique et médicale. Le mécénat a depuis longtemps dépassé le cadre des arts et de la culture qui lui avait été assigné. Il est particulièrement actif dans le domaine des sciences et de leurs progrès. La Fondation européenne pour les énergies de demain, créée par EDF, contribue à la formation des futurs ingénieurs en soutenant les chaires spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables et en permettant la création de nouvelles chaires. La Fondation Cotterelle oriente actuellement ses recherches sur les causes et les mécanismes d'évolution de la scoliose idiopathique qui affecte des milliers de jeunes enfants, parfois de façon grave, principalement des filles, avec des conséquences non négligeables sur leur qualité de vie et sur leur vie scolaire. 28 équipes sont impliquées dans cette mission, abolissant frontières disciplinaires et géographiques. Les maladies cardiovasculaires constituent en France l'un des premiers facteurs de mortalité. Les travaux d'Alain Tedgui à l'hôpital européen Georges Pompidou contribuent notamment à une meilleure connaissance de l'une d'entre elles, l'athérosclérose. Ils ont été couronnés par le prix Daniel Hermann de la Fondation Recherche cardiovasculaire. Interviennent également dans le domaine de la recherche scientifique et médicale les fondations AGF, Dalloz, Le Foulon de la Lande, Louis D, Christophe et Rodolphe Mérieux, Énergie, Unité Guéra-Paul Baudouin Lambrecht-Mayano et Éric Vincenot. L'action humanitaire. Investies de l'action humanitaire, les fondations de l'Institut sont présentes auprès des plus pauvres et des plus faibles. Pour les enfants, la différence et le rejet sont parfois bien plus douloureux que le handicap dont ils souffrent et qui leur interdit d'accéder à une vie scolaire et sociale normale. L'association Mira l'a bien compris, qui dresse des chiens guides destinés tout spécialement aux enfants aveugles. Grâce à la fondation Pierre Dumas, Manon possédera prochainement son propre chien et pourra se déplacer en toute indépendance. La région de Gonaïves en Haïti a été ravagée par 4 ouragans à la fin de l'année dernière. La fondation Suez Environnement Eau pour tous a permis aux associations Aquassistance et Action contre la faim d'intervenir pour y assurer en urgence l'approvisionnement en eau potable. 4 stations mobiles de traitement de l'eau ont ainsi pu alimenter rampes et camions de distribution. Au beau milieu du bidonville de la Ensenada, à Lima, au Pérou, une maison d'accueil a été installée par l'association Point Cœur pour les familles en grande difficulté. Les enfants peuvent venir y jouer, dessiner ou tout simplement passer un moment dans ce cadre sain et familial qui sera très prochainement remis à neuf grâce à la Fondation Équilibre. L'hôpital Borda est à Buenos Aires le plus grand hôpital psychiatrique d'Argentine. Pour participer à la réinsertion de ses patients, Alfredo Oliveira a eu l'idée de créer la Colifata, une radio qu'il anime avec les malades au carrefour du travail clinique et du travail social. La fondation La Fondachao a souhaité garantir la pérennité de son action et de son développement. Citons encore les fondations De Coster, De Heck, Henri Lachmann et pour la solidarité de proximité, et saluons la toute récente création de la fondation Caritas France. L'éducation et la formation sont pour l'Institut et ses fondations un sujet essentiel. La découverte des livres et de la lecture constitue pour les enfants le meilleur moyen d'accéder au savoir. Au Cambodge, où 30 années de guerre ont en grande partie détruit le système éducatif, plus de 90% des écoles primaires ne possèdent pas de vraie bibliothèque. L'association SIPAR, avec le soutien de la Fondation Blanc-Ménil, participe à la lutte contre l'illettrisme en créant 4 nouvelles bibliothèques. À Antananarivo, à Madagascar, le combat pour la paix du père Pedro et de son association Akamasoa passe aussi par l'éducation, la scolarité étant le meilleur moyen de sortir les enfants pauvres de la rue. La Fondation Daïs, la Fondation Philippe et Françoise Durst et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux lui ont apporté leur concours, notamment pour construire une nouvelle école. Pour aider les personnes en souffrance psychique à réintégrer le monde du travail, l'association ECODER propose en Île-de-France de les former au reconditionnement du matériel informatique dans un milieu adapté. Elle leur permet d'évoluer progressivement vers un milieu professionnel ordinaire. Elle a reçu pour cela le soutien de la fondation Fitrust. Évoquons aussi les fondations Barthélémy, Marie-Rose et Michel Bézian, Jeannelli et Jean-René Fourtou, Sophie Germain, Luciole, Guy Sayas, Stéria, Théophile Legrand, Tocqueville et Un métier vocation. Arrêtons-nous maintenant un instant sur la protection de l'environnement et sur l'émergence d'un développement durable qui sont devenus en quelques années l'une de nos principales préoccupations. Tout comme l'ours blanc, la mouette ivoire, qui ne peut vivre que dans les zones de banquise permanente, risque demain de voir son habitat menacé par les changements climatiques. Pour mesurer leur impact, l'association Ecopolaris organise, avec le soutien de la Fondation Avenir Finance, des expéditions qui donnent lieu à de grandes campagnes de sensibilisation du public. Dans les Landes, sur le domaine des agros, la Fondation Jacques et Françoise Lécouzère fait la promotion d'un développement sylvicole durable, notamment en réalisant son propre bilan carbone. Après le passage dévastateur de la tempête Klaus en janvier dernier, la Fondation se mobilise avec la région pour faire face aux dégâts causés. La pollution menace l'équilibre fragile du littoral. Avec l'appui de la Fondation Daniel Jouvence, le club des plus belles baies du monde mène des opérations de préservation dans la baie de Mindelo au Cap-Vert, dans la baie d'Along au Vietnam, ou encore dans la baie de Diego Suarez à Madagascar. N'oublions pas pour terminer les actions des fondations Édouard Bonnefous, Bothio du Lac et Yves Rocher. À la fin de ce bilan, qui est loin d'être exhaustif, une fois encore au nom des membres de nos académies, je voudrais témoigner notre profonde reconnaissance aux fondateurs qui ont trouvé à l'Institut de France le partenaire privilégié de leur volonté généreuse. Nous leur témoignons aujourd'hui notre profonde reconnaissance. Le moment est maintenant venu de procéder à la remise des prix. Nous commencerons par le prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Je donne la parole à Monsieur Gérard Hort de l'Académie des sciences pour présenter les travaux du lauréat, Monsieur Éric Leroy.
La fondation, créée en 2001 par Alain et Chantal Mérieux, à la mémoire de Rodolphe Mérieux, porte depuis 2007 le nom de Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Cette fondation, placée sous l'égide de l'Institut de France, mène, dans des pays en développement d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale, une remarquable action dont la vocation est d'améliorer les capacités de soins et de prévention, de formation et de réinsertion. Le prix Christophe Mérieux, créé par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, est destiné à aider la recherche sur les maladies infectieuses et parasitaires dans les pays en développement, et plus spécifiquement, à aider des équipes travaillant de manière permanente dans ces pays. Faut-il rappeler que chaque année, les maladies infectieuses et parasitaires sont à l'origine d'environ 15 millions de décès et que plus de 90% de ces maladies surviennent dans des pays en développement, surtout chez les enfants. Faut-il aussi rappeler que les dernières décennies ont vu l'émergence de nombre de maladies infectieuses humaines nouvelles, d'étiologie auparavant inconnue, le plus souvent dans des pays du Sud, et que la grande majorité de ces maladies ont eu pour origine un agent pathogène infectant un animal domestique ou sauvage. Ces maladies représentent une menace pour la santé humaine globale et l'économie mondiale. Le prix Christophe Mérieux 2009 a été décerné au docteur Éric Leroy pour ses travaux sur les maladies virales émergentes des grandes arboviroses de l'Afrique centrale. Éric Leroy est docteur vétérinaire, diplômé d'École d'Alfort et docteur en sciences en immunologie de l'Université de Paris 6. Il est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et travaille depuis 1996 au Centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon. Ce centre est essentiellement financé par l'État gabonais et il faut rendre hommage à la mémoire du président Bongo Ondimba qui a joué un rôle majeur dans sa création. Éric Leroy a fondé il y a 9 ans et dirige l'unité des maladies émergentes virales qui réunit des scientifiques et des étudiants gabonais et des chercheurs français. C'est le laboratoire de référence nationale pour les fièvres hémorragiques virales et pour les viroses transmises par les arthropodes, les arboviroses, qui constituent d'importants problèmes de santé publique au Gabon et dans cette région de l'Afrique centrale. L'unité dispose d'un laboratoire de haute sécurité, que vous verrez illustré dans quelques instants, de type P4, le seul existant en Afrique francophone, qui permet l'étude d'agents très virulents pour lesquels ni traitement efficace ni vaccin n'est disponible. C'est le cas du virus Ebola, auquel Éric Leroy a consacré une thèse remarquée sur l'immunité au cours de l'infection. Ce virus cause une fièvre hémorragique rapidement mortelle dans environ 80% des cas. Seule l'identification rapide des premiers cas, l'isolement des malades, la protection des personnes exposées permettent d'endiguer cette facile transmission interhumaine. Notre mémoire garde le souvenir de l'émergence de ce virus, alors inconnu, en 1976 au Zaïre et au Soudan. Le virus Ebola a émergé au Gabon en 1994 et depuis, plusieurs épidémies sont succédées dans les zones forestières, à la frontière du Gabon et la République du Congo. Elles ont mobilisé Éric Leroy et son équipe. Simultanément, le virus Ebola a décimé les populations de gorilles et de chimpanzés qui vivent dans ces forêts. Éric Leroy a montré que chaque épidémie humaine avait pour origine la manipulation d'une carcasse d'animal mort et correspondait à des émergences multiples du virus chez les grands singes à partir d'un réservoir naturel. Et in fine, il a identifié le réservoir du virus Ebola, des chauves-souris frugivores, chez qui l'infection est asymptomatique. On conçoit aisément la passion et l'énergie qui anime Éric Leroy et lui permettent de surmonter les nombreuses difficultés que comporte l'étude d'un virus très dangereux se manifestant dans des régions isolées. Mais l'enjeu est de prédire, de prévenir et de mieux contrôler les épidémies en liaison avec les ministères de la Santé, mais aussi de la forêt et de l'environnement du Gabon et de la République du Congo. Éric Leroy et son équipe s'intéressent en fait à l'ensemble des fièvres hémorragiques virales et aux grandes arboviroses. En témoigne la démonstration que les chauves-souris gabonaises hébergent aussi le virus de Marbourg, proche du virus Ebola. Il a mis en évidence de l'émergence simultanée récente du virus de la dengue et du virus chikungunya au Gabon. Comprendre les facteurs conduisant à l'émergence d'infections humaines à partir d'un réservoir naturel représente l'un des défis importants des recherches en cours. Éric Leroy a acquis une réputation internationale dans le domaine des maladies émergentes. Son laboratoire est un partenaire de l'Organisation mondiale de la santé pour la surveillance de ces maladies en Afrique centrale. Éric Leroy est au cœur d'un projet de création d'un pôle d'excellence en virologie médicale à Libreville, alliant le Centre international de recherche médicale de Franceville et la faculté de médecine de la capitale du Gabon. Ce projet porte l'espoir d'un développement durable de la science au service de la santé au Gabon et en Afrique centrale. Il correspond remarquablement à la philosophie du prix Christophe Mérieux.
Je vous propose de découvrir quelques images des travaux de recherche menés par Éric Leroy au Centre international de recherche médicale de Franceville, au Gabon.
On travaille ici au CIRMF au Gabon depuis une dizaine d'années et on travaille sur les virus émergents, particulièrement le virus Ebola et le virus de Marburg. La spécificité du travail et de l'équipe ici, d'abord, premièrement, c'est le travail dans un laboratoire P4. Et c'est le deuxième laboratoire P4 du continent africain, parce que l'autre, il est en Afrique du Sud, et il y a le nôtre au Gabon.
Et là, on va rentrer dans le laboratoire.
On a mis en évidence, après 30 années de recherche par différentes équipes internationales, pour la première fois, donc, le réservoir, c'est-à-dire l'animal qui porte de manière asymptomatique, naturelle et permanente le virus, qui sont des chauves-souris frugivores. Le virus est transmis des chauves-souris aux grands singes, donc chimpanzés et gorilles, et évidemment les chasseurs qui chassent ces animaux, lorsqu'ils trouvent une carcasse de ces grands singes morts dans la forêt, en la touchant, s'infecte et va transporter la maladie. Au cours de ces années, j'ai pu mettre en place une équipe mixte, une équipe dans laquelle des experts internationaux, des experts français et même d'autres nationalités s'intègrent aux structures locales pour mener une recherche interactive et intégrée.
Nous avons screené un certain nombre de virus, notamment...
L'avantage ici, c'est qu'on se situe d'abord au cœur des régions épidémiques, donc on peut intervenir très rapidement, on est au contact avec les structures sanitaires du pays, on est au contact des patients et donc on peut mener des recherches particulières. L'obtention du prix Mérieux, en fait, d'abord, premièrement, c'est un grand honneur de le recevoir, une reconnaissance scientifique bien évidemment, mais également une reconnaissance pour notre action en santé publique aux côtés du ministère de la Santé du Gabon et une action dans la formation des jeunes scientifiques gabonais. L'argent de ce prix représente une véritable manne financière pour moi et mon équipe. En gros, ça représente entre 80 et 90% de mon budget de fonctionnement annuel. Donc mon objectif, c'est de transposer ce modèle dans la capitale et au sein d'un centre hospitalier universitaire, au sein de la faculté de médecine, donc au contact avec les patients et les futurs scientifiques du Gabon.
J'invite M. Éric Leroy à monter à la tribune.
Je suis très heureux de vous remettre au nom de l'Institut de France et de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux le prix Christophe Mérieux 2009.
Nous allons maintenant décerner le grand prix scientifique de la Fondation Louis D. Et avant que je lui invite, M. Christian Dumas est déjà à la tribune pour présenter les travaux d'Hervé Vaucheray et Olivier Voynet, qui sont les lauréats.
La Fondation Louis D. décerne chaque année un grand prix scientifique et un grand prix humanitaire ou culturel alternativement. Ces prix sont d'un montant très important, les mieux dotés de l'Institut, et attribués une année sur deux à l'échelle internationale. Une proportion élevée de ce montant est dévolue au soutien direct des recherches. En 2009, ce grand prix revient à des scientifiques français ou étrangers travaillant en France sur le thème des nouveaux acquis en biologie des plantes et l'amélioration des ressources végétales et vivrières. Le jury du prix est formé d'experts désignés par l'Académie des sciences qui sélectionnent et classent les meilleurs candidats et proposent ensuite ce classement au Conseil de la Fondation qui opère le choix final. Pour cette année, la Fondation Louis D. a attribué ce prix conjointement à messieurs Hervé Vaucheray et Olivier Voynet, dont les travaux ont des inspirations assez similaires, bien qu'ils ne travaillent pas ensemble. Leurs travaux concernent notamment l'élucidation des mécanismes de défense des plantes contre les pathogènes, en particulier les virus, qui provoquent, comme tout le monde le sait, de nombreuses maladies des plantes. Les travaux de Pasteur ont montré que lorsqu'un homme surmonte spontanément une infection virale, le même virus ne peut plus l'infecter à nouveau. En effet, son système immunitaire produit des anticorps spécifiques qui peuvent persister plusieurs années et protéger l'organisme contre toute nouvelle infection par le même virus. C'est le principe de la vaccination ou immunisation. Par contre, les plantes ne possèdent pas de système immunitaire produisant des anticorps. Cependant, au début du XXe siècle, un chercheur avait remarqué que chez une espèce végétale donnée, certains individus étaient capables, après une telle infection, de développer des tissus résistants à la surinfection par le même virus. ce phénomène est resté longtemps inexpliqué. Ce n'est que très récemment que les travaux de plusieurs équipes, dont celle des deux lauréats, ont permis de comprendre les mécanismes mis en jeu. Dans cette compréhension, Hervé Vaucheray, directeur de recherche à l'INRA de Versailles, a fait œuvre de pionnier. C'est en 1989 qu'il met en évidence deux mécanismes de défense des plantes contre des attaques par des pathogènes ou contre des dérèglements génétiques. En effet, il arrive parfois que les messagers d'une cellule ne soient pas conformes à la copie ADN de leur génome. La plante possède des enzymes de contrôle qui lui permettent de corriger les erreurs de ses propres cellules en dégradant ses messagers erronés. Elle utilise un mécanisme similaire, dit de mise au silence, pour se protéger des ARN invasifs comme ceux de la plupart des virus végétaux. Un aspect fondamental de cette réaction de défense est donc qu'elle est totalement innée, car elle n'est pas programmée par la plante hôte, mais au contraire par des caractéristiques propres au génome du pathogène. De son côté, Olivier Voynet, directeur de recherche au CNRS à Strasbourg, a également analysé cette mise au silence des génomes viraux, mais l'une de ses découvertes capitales a été celle des suppresseurs de mise au silence des virus, ce qui permet de comprendre comment les virus opèrent en permanence pour contrecarrer l'action des petits ARN protecteurs. La découverte de ce double système de défense et contre-défense entre les plantes et les virus illustre aussi d'une certaine manière la coévolution en cette année du bicentenaire de la naissance de Darwin. L'utilisation de modèles végétaux a été déterminante dans l'histoire de la génétique. Gregor Mendel, son père fondateur, utilise le pois pour élaborer les lois qui portent son nom, même si à cette époque, la notion de modèle avait peu de sens en biologie. En 1900, la découverte des mutations par Hugo de Vries se réalise chez une autre plante, l'énothère. Plus récemment, Barbara McClintock découvre les gènes mobiles ou transposons à l'aide du maïs, découverte qui lui valut un prix Nobel en 1983. Enfin, il faut mentionner un surprenant mécanisme d'inactivation de gènes à l'issue d'une expérience de transgénèse chez le pétunia en 1990, auquel il convient d'ajouter les travaux de nos deux lauréats, Hervé Vaucheray qui les initie chez un tabac et Olivier Voynet qui utilise comme aujourd'hui l'ensemble de la communauté des biologistes végétaux, la plante qui a le joli nom d'Arabette des Dames. Pour terminer, il convient de rappeler que les pertes occasionnées par les maladies dans les récoltes peuvent atteindre jusqu'à 30% en Europe et avoisiner même 70% dans les pays tropicaux. Comprendre les mécanismes fondamentaux mis en œuvre par les plantes pour se protéger, c'est trouver des parades nouvelles à ces pertes considérables et préfigurer l'agriculture de demain. L'Institut de France est honoré et heureux de témoigner son admiration grâce à la générosité de la Fondation Louis D, à Hervé Vaucheray et Olivier Voynet, deux scientifiques français qui ont contribué de manière remarquable au progrès de la génétique et à son utilisation à l'amélioration des ressources vivrières.
Merci, cher confrère. Avant que vous remettiez aux lauréats leur diplôme et leur prix, nous allons nous rendre maintenant à l'Institut national de recherche agronomique à Versailles, dans le laboratoire de M. Hervé Vaucheray, et à Strasbourg, dans l'Institut de biologie moléculaire des plantes, où travaille M. Olivier Voynet.
Au départ, nos travaux visaient à comprendre des mécanismes qui étaient inexpliqués. En effet, dans les années 80, on a commencé à produire des plantes transgéniques et un certain nombre de plantes transgéniques qui étaient obtenues n'exprimaient pas les gènes que l'on avait introduits. Donc une des questions qui se posait était de savoir pourquoi y avait-il un obstacle à l'expression des transgènes. Et parallèlement à ces travaux, des travaux réalisés par des virologistes montraient que des plantes qui étaient infectées par des virus étaient parfois capables de dégrader une partie du patrimoine génétique de ces virus, en l'occurrence leur ARN. Donc ce mécanisme est basé sur le détournement d'une partie du patrimoine génétique d'un virus, la destruction de ce patrimoine génétique en petites molécules, qu'on appelle des petits ARN, qui sont utilisés pour détruire en retour le reste du matériel génétique du virus. Donc ce que l'on a mis en évidence, c'était le mécanisme moléculaire par lequel les plantes sont capables de mettre en place ce système immunitaire. Ce que l'on réalise, c'est de greffer une plante qui est saine sur une plante malade. Ce que vous voyez passer depuis le porte-greffe vers le greffon, et qui se révèle par l'apparition de ces secteurs chlorotiques, c'est le passage de molécules qui transmettent un signal qui va déclencher le même type de phénomène dans le greffon que celui que vous observez chez le porte-greffe. Donc on peut imaginer que des kits de diagnostic pourront être mis au point de manière extrêmement sensible, d'utilisation extrêmement facile, qui pourront être mises par exemple au service des agriculteurs pour déceler très tôt des champs d'infection viraux. Donc le prix scientifique de la Fondation Louis-D va nous permettre d'aborder des études de haut débit qui sont extrêmement coûteuses et que notre laboratoire ne pourrait pas mener sans ce type de soutien.
Notre principal objet d'étude, donc, c'est cette plante, Arabidopsis thaliana, qu'on utilise comme modèle. Et on essaye de comprendre comment le spectre de petits RNA de cette plante contribue aux grandes fonctions biologiques de la plante et aussi contribue à adapter la plante en face de conditions qui sont adverses. Et les conditions adverses qu'on étudie surtout beaucoup au laboratoire sont les infections par les virus.
D'accord. Ouais. Mais ça, c'est bon, je les clone.
Donc on pourra même faire des tests de suppression, peut-être transitoire.
Ouais.
Ça, ce serait bien.
Ça serait légal, ouais.
C'est un des rares systèmes d'études qui permet d'extrapoler les découvertes qui sont faites chez la plante à des fonctions qui sont aussi obtenues ou vues chez l'humain. On a dans nos programmes de recherche de grands programmes de séquençage en fait, de ces petits RNA qui régulent l'expression du génome d'Arabidopsis ou d'autres organismes, puisqu'on est aussi intéressé par des cultures de cellules humaines. Et en fait, l'idée est d'établir des répertoires exhaustifs de ces petits RNA en utilisant des techniques récentes de séquençage profond basées sur le pyroséquençage. Or, ces techniques coûtent très très cher, même si les prix ont maintenant un peu baissé. Et donc, ça monopolise quand même beaucoup de ressources du laboratoire en termes financiers. Donc, évidemment, le prix de l'Institut sera largement utilisé à cette fin.
J'invite M. Hervé Vaucheray et M. Olivier Voinet à monter à la tribune.
La Fondation Louis-D, Institut de France, est heureuse de vous décerner ce prix à Hervé Vaucheray. Et conjointement à Olivier Voinet.
Nous présentons maintenant le Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis-D. Je donne la parole à M. Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, pour présenter les petits frères des pauvres.
La Fondation Louis-D, créée en juillet 1999, a pour objet de soutenir des personnes morales, associations, fondations ou organisations non gouvernementales, qui se distinguent par des actions remarquables, quelles qu'en soient la forme et les modalités, dans les domaines scientifiques, caritatifs ou culturels. Elle accorde chaque année des subventions et des aides pour un montant qui atteint cette année plus de 800 000 euros. Deux grands prix sont également attribués chaque année, l'un scientifique, on l'a vu, et l'autre alternativement culturel et humanitaire. Doté de 750 000 euros, le Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis-D avait été accordé d'abord en 2000 au Comité international de la Croix-Rouge pour deux projets d'approvisionnement en eau et de traitement de l'eau en Afrique. Puis, en 2003, à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. En 2005, au Secours catholique pour son projet d'accueil médicalisé des adultes autistes. Et enfin, en 2007, à l'œuvre dite du bateau tremplin, créée et conduite par l'Association des œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte. Il me revient de vous présenter le projet que le Conseil d'administration de la Fondation Louis-D a décidé de soutenir cette année. Il s'agit de l'acquisition et de l'aménagement d'une maison relais situé rue de la Chine dans le 20e arrondissement de Paris, projet conçu et mis en œuvre par les petits frères des pauvres. Depuis 1946, fidèles à l'intuition de leur fondateur Armand Marquiset, les petits frères des pauvres consacrent leur action à l'aide aux personnes de plus de 50 ans en situation de grande précarité. Aujourd'hui, 7000 bénévoles et 400 salariés aident ainsi 26 000 personnes, toutes marquées par des vies difficiles que l'âge et la perte progressive d'autonomie fragilisent encore davantage. Chacun le sait, la réinsertion sociale est un parcours complexe. Fort de leur longue expérience et de leur savoir-faire, les petits frères des pauvres s'efforcent de veiller à chacune des étapes successives de cette œuvre de longue haleine. La question du relogement des personnes isolées ou en situation d'exclusion nécessite diverses formes d'accompagnement en hébergement collectif. C'est pourquoi les petits frères des pauvres distinguent dans le parcours de relogement plusieurs périodes successives. D'abord l'hôtel à la journée, puis l'hôtel au mois, et enfin la stabilisation progressive dans des studios. Pour chaque étape, il faut une structure adaptée. Le projet de maison relais correspond à cette dernière étape, au cours de laquelle la personne aidée doit réapprendre un mode de vie stable avant de trouver une solution durable au terme de sa réinsertion sociale. Dans la maison relais de la rue de Chine, qui ouvrira ses portes à Noël 2010, 23 studios permettront d'accueillir des personnes de plus de 50 ans sans domicile, ayant commencé un parcours de réinsertion mis en œuvre par les petits frères des pauvres. Chacune d'entre elles pourra être logée dans l'un des studios pendant quelques mois en attendant une solution de logement définitive. Chaque studio sera équipé d'une salle d'eau privative et d'un coin cuisine permettant une autonomie réelle. En effet, le combat des petits frères des pauvres pour la reconquête d'un chez-soi passe par le respect de l'intimité des personnes où qu'elles vivent. Dans un cadre rassurant, le retour à l'autonomie et à la vie quotidienne permet aux personnes hébergées de concevoir à nouveau un projet personnel. Elles peuvent ainsi regagner peu à peu confiance en elles, retrouver leur dignité et leur place dans la société. Les locataires bénéficieront de la présence de salariés et de bénévoles des petits frères des pauvres, qui les soutiendront dans leurs démarches administratives, dans les soins médicaux lorsqu'ils sont nécessaires et dans les aspects matériels de la vie quotidienne. Le développement de structures telles que cette maison relais est une nécessité. Les études les plus récentes montrent que le nombre des personnes âgées en situation de grande précarité sociale va croître à Paris dans les années à venir. Une attention particulière doit être portée à cette population très vulnérable avec des modes de prise en charge et d'accompagnement spécifiques. Sur la porte d'entrée du premier local des petits frères des pauvres, il était écrit que celui qui frappe ici sache qu'il entre chez son frère. Que celui qui frappe ici sache qu'il entre chez son frère. L'Institut de France, grâce au Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D, est particulièrement heureux de pouvoir contribuer à l'ouverture prochaine d'une maison où celui qui frappera saura qu'il entre chez son frère.
Nous vous remercions, Monsieur le Secrétaire perpétuel, pour cette présentation de cette si belle œuvre et je vous propose de découvrir quelques images du travail exceptionnel réalisé par les petits frères des pauvres.
On va commencer par les relogements, puis après on annoncera les dispositions techniques.
La mission sociale de la Fondation, c'est de faire en sorte de loger les gens les plus défavorisés, que ce soit des personnes âgées qui risquent une expulsion ou des difficultés de vue leur handicap, ou des personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont en voie de réinsertion, mais quelquefois en voie très lointaine. Et donc, il s'agit de loger ces gens et surtout, surtout, de trouver un chemin, de les accompagner, parce que c'est une voie difficile quand on a été 6 mois, 1 an et quelquefois plusieurs années dans la rue.
Voici mon petit palais. Il n'est pas très grand, mais il est agréable.
Bonjour.
C'est gentil d'être venu me voir, voilà. J'ai fait différents services sociaux. Je n'ai jamais couché dans la rue, j'ai eu cette chance-là. Puis après ça, grâce aux petits frères des pauvres, ils m'ont procuré cet hôtel où je suis là depuis bientôt 4 ans.
C'est plus urgent que ça, c'est plus urgent que ça.
Bon, ce qui me plaira assez, c'est où sont différentes personnes, dans des petites pensions de famille, ce qui fait qu'on a de la compagnie. Chacun cède un petit peu à sa façon. Quelques personnes font les courses, d'autres personnes font la cuisine, c'est assez amical. Je pense que si c'est possible, ce serait dans mes projets. Voilà.
Une maison relais, c'est important dans le parcours de relogement d'une personne qui vient de la rue. C'est un intermédiaire entre l'hôtel à la journée et l'habitat normal pour moi, avec un peu plus d'aide pour permettre à la personne de retrouver ses marques.
Ça part du constat que ces personnes, on ne peut pas les mettre dans un habitat dispersé. Pour beaucoup, en tout cas, de ceux qu'on appelle les SDF, il faut une étape, d'abord quelquefois d'hôtel meublé, ensuite de logement passerelle, et tout un accompagnement pour réapprendre ce qu'est une vie organisée, ce que nous appelons normale, et qui pour eux est tout à fait anormal et très difficile.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que ce projet a gagné le Grand Prix humanitaire.
Bah, d'abord, ça a été un honneur pour nous, mais surtout par rapport au public dont on s'occupe. C'est vrai que ça va jouer le rôle d'un accélérateur de projet pour pouvoir reloger des publics encore plus précaires du fait de leur maladie. Ça nous donne un courage et une énergie supplémentaires.
J'invite M. Michel Tchégaray, président de l'association Les Petits Frères des Pauvres, et M. Alain Michel, président de la Fondation Les Petits Frères des Pauvres, à monter à la tribune.
Au nom de l'Institut de France, je suis heureux de vous remettre le Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D.
Nous revenons maintenant aux sciences pour découvrir le lauréat du prix de la Fondation Le Foulon de la Lande. Monsieur Alain Carpentier, vice-président de l'Académie des sciences, présente les travaux de monsieur Éric Olson.
Créé en 2000 par monsieur et madame Jean-Pierre Le Foulon, en mémoire du fondateur des laboratoires de la Lande, la Fondation Le Foulon de la Lande distribue chaque année 1 million d'euros de subventions, soit scientifiques, soit culturelles, dont un grand prix scientifique de 500 000 euros qui est attribué cette année au professeur Éric Olson. Alors, je vous invite à vous déplacer aux États-Unis et nous allons parler des contributions d'Éric Olson. Il a été recruté par l'université Southwestern de Dallas, au Texas, dans des conditions qui valent la peine d'être relatées. Deux prix Nobel de cette université sont venus le rencontrer dans un aéroport, l'aéroport de Dallas. Et en l'espace d'une heure, l'ont convaincu de ne pas aller en Caroline du Nord, où ils s'apprêtaient à aller, mais à venir dans leur propre université. Si je cite cette anecdote, c'est pour vous montrer l'importance qu'avait à leurs yeux, mais à nos yeux également, Eric Olson. Le professeur Olson est biochimiste et musicien. En tant que biochimiste, il a apporté trois contributions essentielles à la recherche cardiovasculaire, et en tant que musicien, il a créé une troupe de rock. Parlons de ses contributions scientifiques. Vous savez que le cœur se développe chez l'embryon très tôt dans la vie de l'embryon, dès les premières semaines. C'est en fait le premier organe qui se développe, et du cœur naissent des vaisseaux qui vont irriguer tous les autres organes qui se développent ultérieurement. Eric Olson et son équipe ont découvert les gènes activateurs et les mécanismes de ce développement. C'est sa première contribution. Une contribution particulièrement importante parce que comprendre la dégradation, le dérèglement, la dérégulation de ces gènes, c'est comprendre les malformations congénitales que l'on voit parfois chez l'enfant. Dans 1% des naissances, il y a des malformations congénitales. Alors, je connais bien ces malformations. Elles sont très sévères, elles sont graves, elles sont souvent mortelles. Heureusement, la chirurgie peut les corriger la plupart du temps, mais pas toujours. Et bien évidemment, connaître le mécanisme de leur apparition est quelque chose de fondamental pour pouvoir les prévenir. Deuxième contribution d'Eric Olson et de son équipe, la découverte des mécanismes et facteurs de transcription responsables de certaines maladies cardiaques de l'adulte en apparence acquises. Telle cette curieuse maladie que nous connaissons bien, qui est la cardiomyopathie hypertrophique, dans laquelle le cœur, tout d'un coup, se met à fabriquer trop de muscles qui obstruent les cavités cardiaques. Eh bien, Eric Olson et son équipe ont montré qu'une protéine, la calcineurine, est impliquée dans ce processus qui peut être contrôlé par des inhibiteurs qu'ils développent actuellement. Troisième contribution d'Eric Olson et de son équipe, cette contribution porte sur les micro-ARN, qui sont ces acides nucléiques que l'on trouve principalement dans le cytoplasme. Eh bien, Eric Olson a découvert les premiers micro-ARN impliqués dans les cardiomyopathies, maladies du muscle, et l'infarctus du myocarde, là encore, ouvrant la voie à des thérapeutiques nouvelles. Connaissez-vous les transactivators ? Ce terme peut évoquer pour vous d'autres gènes que Eric Olson aurait découverts. Eh bien non, c'est le nom de la troupe de rock qu'il a formé et qu'il dirige, et qu'il a appelé, originalité bien sûr, transactivator. L'éclectisme, l'amour de l'art sont souvent la marque d'esprit inventif. À la question que je posais à Eric Olson, mais qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Parce que c'est beaucoup d'argent. Je pensais qu'il allait me dire acheter des guitares ou une batterie pour mon groupe de rock, ou bien une voiture de luxe pour ma femme. Il m'a répondu, je l'utiliserai pour mes recherches à venir. C'est un signe de l'esprit qui l'anime. On oppose trop souvent la recherche fondamentale et la recherche appliquée, alors qu'elles sont l'une à l'autre nécessaires et réciproquement. Voici l'exemple d'un chercheur qui n'a cessé d'exploiter lui-même ses recherches fondamentales pour développer des médicaments au service de l'homme. C'est pourquoi l'Institut de France, la Fondation Le Foulon de la Lande et le jury international du Grand Prix sont fiers d'avoir distingué et heureux de vous présenter le lauréat du Grand Prix de la Fondation Le Foulon de la Lande, Institut de France.
Merci, Monsieur le Président. Nous nous rendons maintenant à l'Université de Dallas, aux États-Unis, dans le laboratoire de M. Eric Olson.
J'ai choisi de travailler sur le cœur car c'est l'organe le plus passionnant et le plus important de tout le corps. C'est le premier organe à prendre forme dans l'embryon et toute la vie dépend de son bon fonctionnement. Comprendre les mécanismes de base qui contrôlent son développement et son fonctionnement est ce qu'il y a de plus passionnant en science. Mon laboratoire s'est intéressé surtout à la découverte des gènes qui contrôlent le développement du cœur. Nous avons découvert comment des mutations dans ces gènes peuvent perturber la formation d'une partie du cœur et induire les malformations cardiaques congénitales. Ces malformations sont les premières malformations observées à la naissance chez 1% des nouveau-nés. Nous avons découvert que bon nombre d'entre elles sont dues à des mutations génétiques. Notre laboratoire s'est aussi penché sur les mécanismes qui peuvent entraîner une insuffisance cardiaque chez les adultes. Voici un cœur normal. De nombreuses maladies cardiaques peuvent provoquer un dysfonctionnement du cœur. Voici un cœur qui a subi une crise cardiaque. On constate une grande lésion et le cœur ne fonctionne plus comme il faut. Notre laboratoire a découvert les mécanismes biochimiques responsables de ce type de maladie cardiaque. Munis de ces informations, nous avons pu travailler avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour développer de nouvelles thérapeutiques pour soigner les maladies cardiaques. Je suis très honoré de recevoir ce prix et je suis particulièrement heureux que le comité ait choisi de reconnaître un chercheur fondamental dans ce domaine. J'ai l'intention d'utiliser l'argent de ce prix à des fins d'éducation.
J'invite M. Eric Olson à monter à la tribune.
Monsieur Eric Olson, l'Institut de France et la Fondation Le Foulon de la Lande sont particulièrement heureux de vous décerner le prix Le Foulon de la Lande de cette année.
Merci beaucoup.
Le prix scientifique Énergie. Deux lauréats se voient décerner le prix scientifique de la Fondation Énergie. Monsieur Michel Lazinski, de l'Académie des sciences, présente les travaux de Monsieur Luis García Larrea et de Monsieur John Wood.
La Fondation Énergie Institut de France a été très généreusement créée par Monsieur Baudecroux en 1999. Elle apporte elle aussi son soutien à la recherche biomédicale. Elle le fait dans le domaine du système nerveux, de son fonctionnement et de ses pathologies. La Fondation a deux objectifs. Le premier est de soutenir chaque année un certain nombre de jeunes équipes travaillant en France. Ces équipes sont sélectionnées par l'Institut de France et le thème retenu cette année est un thème important puisqu'il était celui de la biologie de l'addiction. La Fondation attribue par ailleurs chaque année un grand prix européen et ce grand prix va naturellement à des chercheurs d'exception. Le thème choisi cette année pour le Grand Prix Énergie 2009 concerne la douleur et ses traitements. La douleur, vous le savez tous, c'est une sensation universelle. Car la douleur aiguë, il faut le rappeler, a d'abord un rôle protecteur essentiel, un rôle d'alarme. Elle nous signale que nous mettons la main sur une plaque chaude, elle nous signale que nous avons endommagé nos articulations. Elle nous signale que nous sommes en train de faire un accident cardiaque. C'est elle qui nous manifeste que nous avons une appendicite. Bref, ce rhône d'alarme est important et il est important pour la survie de l'espèce. Mais cette douleur, chacun le sait, peut devenir chronique, chronique et insupportable. Elle devient chronique pour de multiples raisons, cancer bien sûr, inflammation persistante, mais aussi écrasement, section de nerfs, endommagement de nerfs par une variété de pathologies, le diabète, un certain nombre de pathologies virales comme le VIH par exemple, des lésions de nerfs produites par certains traitements médicamenteux et en particulier certaines chimiothérapies. Il s'agit là de douleurs qu'on appelle neuropathiques. Elles sont fréquentes, elles sont mal soignées, elles sont par millions dans nos pays développés. Il existe un grand nombre de médicaments pour combattre la douleur, mais cet arsenal thérapeutique reste très insuffisant, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de douleurs neuropathiques et de certaines douleurs cancéreuses. Le Grand Prix a été attribué conjointement à John Wood, professeur à University College, membre de la Royal Society, et au Dr Luis Garcia Larrea, directeur de recherche à l'INSERM, directeur d'une unité INSERM à l'hôpital neurologique de Lyon. Le professeur Wood s'est occupé tout particulièrement et très brillamment d'explorer les mécanismes de perception qu'on appelle périphériques de la douleur, du niveau des nocicepteurs jusqu'à la moelle épinière. Nous avons sous notre peau des terminaisons nerveuses par milliers qui sont celles qui génèrent la douleur. Et puis le signal électrique va jusqu'à notre moelle épinière et ensuite jusqu'à notre cerveau. John Wood a fait des observations particulièrement importantes en découvrant toute une série de machines moléculaires qui génèrent la bioélectricité. Des machines qu'on appelle des canaux ioniques, des machines qui conduisent le signal douloureux le long de nos nerfs spécialisés douleur. Ces découvertes ont bien sûr une grande importance en sciences fondamentales, mais ces découvertes ont aussi une grande importance médicale et thérapeutique. Elles permettent de mieux comprendre les désordres électriques qui surgissent lors de la section ou de l'écrasement d'un nerf. Elles permettent de progresser dans la compréhension du fonctionnement des médicaments existants avec l'espoir de les améliorer. Elles mettent à jour de nouvelles cibles thérapeutiques pour de nouveaux médicaments avec de nouveaux potentiels. Les travaux de John Wood nous éclairent par ailleurs aussi sur une pathologie rare, très rare, sur une pathologie qui a toujours intrigué et fasciné l'homme. Cette pathologie, c'est l'absence congénitale de toute forme de douleur. Il y a des gens qui ne ressentent aucune forme de douleur et ces gens ont des mutations dans les gènes découverts par John Wood. Les recherches du docteur Garcia Larrea portent sur la perception centrale de la douleur, sur le rôle du cerveau dans la douleur, et elles sont essentiellement consacrées à la douleur humaine. Quelles sont les régions particulières du cerveau en charge du signal douleur? Combien y en a-t-il? Où sont-elles situées? Comment travaillent-elles ensemble? Quelles sont les régions du cerveau particulièrement impliquées dans la perception et l'analyse des douleurs neuropathiques? Voilà une première série de grands problèmes à propos desquels Luis Garcia Larrea a amené de nombreuses contributions importantes. Par ailleurs, chacun sait que l'intensité de la perception douloureuse est au moins en partie subjective. Elle varie avec les individus. Elle dépend du contexte émotionnel. Luis Garcia Larrea a analysé avec grand succès les relations qui existent entre les circuits qui répondent à l'intensité douloureuse et les circuits qui répondent à l'intensité émotionnelle. Les applications cliniques des recherches de Luis Garcia Larrea sont nombreuses et importantes. Elles portent sur le contrôle de la douleur chez des patients, et malheureusement il y en a beaucoup, qui sont résistants aux traitements médicamenteux existants. Et il le fait en utilisant une neurochirurgie fonctionnelle et en stimulant électriquement le cortex moteur. Les questions qui se posent là sont de trois ordres. Peut-on définir des zones cérébrales plus efficaces à stimuler? Peut-on trouver des méthodes nouvelles pour mieux sélectionner les patients répondeurs avant même d'aller à la neurochirurgie, qui est un acte traumatisant? Quelle est l'efficacité des stimulations magnétiques qui ont l'avantage d'être non-invasives et ne pas nécessiter de neurochirurgie? Voilà donc que le jury a sélectionné deux brillants chercheurs très complémentaires dans le domaine de la douleur et de ses traitements. L'un s'occupe des mécanismes périphériques de la perception douloureuse, Son monde expérimental est celui des macromolécules, de la génétique, de la physiologie, de la pharmacologie et des souris. L'autre s'occupe de la perception centrale de la douleur humaine. Son arsenal instrumental est celui des grosses machines, de l'IRM fonctionnel, de la tomographie par émission de positons, de la magnétoencéphalographie. John Wood et Luis García Larrea.
Merci, chers confrères. Nous nous rendons maintenant à l'hôpital neurologique de Lyon, où M. Luis García Larrea mène ses travaux, puis à l'Université de Londres, dans le laboratoire de M. John Wood.
La formule est la même, finalement. Si on normalise déjà par sujet...
Le cœur de la recherche, ici comme ailleurs, c'est la compréhension des mécanismes de la douleur chez l'homme. L'objectif de la recherche, c'est justement les traitements par neurostimulation qui arrivent en bout de course quand la douleur est tellement importante ou tellement réfractaire qu'aucun traitement pharmacologique n'est capable d'en venir à bout. Et on essaye d'aller directement dans le système et de modifier l'activité du système par des stimulations électriques ou magnétiques pour court-circuiter le blocage ou l'hyperactivité et remettre un semblant d'équilibre dans ce système. Petit à petit, on a clivé un peu les différents mécanismes pour essayer de comprendre pourquoi cette stimulation agit, sur quel système neuronal elle agit et comment est-ce qu'on pourrait améliorer son efficacité. Vous savez que le budget de la recherche rétrécit, voit arriver un prix qui peut servir à acheter des nouvelles machines ou à payer des examens qui sont relativement onéreux en imagerie fonctionnelle, c'est toujours une source moindre de préoccupation.
Les chiffres des gens qui souffrent sont vraiment intéressants. Il y a plus ou moins 1% sur 5 qui a un problème chronique de la douleur. Et ils sont très mal servis avec les drogues contemporaines qui ont surtout les effets secondaires qui mènent à des problèmes. Alors notre équipe se concentre surtout sur les neurones sensoriels qui sont trouvés dans la peau, partout dans le corps. C'est absolument nécessaire d'avoir ces cellules pour sentir la douleur. Elles sont très importantes pour développer les drogues contre la douleur. Et nous, on a exploité la génétique moléculaire, surtout chez les souris transgéniques, pour manipuler l'expression des gènes, pour savoir quels sont les gènes qui sont très importants dans ces cellules-là pour sentir la douleur. On a développé un système pour supprimer les gènes que dans les neurones sensoriels. Alors pour notre équipe, on est vraiment très content, on est très honoré de recevoir le prix NRG de l'Institut de France parce que je crois que ça démontre que notre compatriote scientifique en Europe a noté notre recherche. On est vraiment ravis que les autres scientifiques trouvent que notre travail est utile et intéressant.
J'invite M. Luis García Larrea et M. John Wood à monter à la tribune pour recevoir le prix scientifique de la Fondation Énergie.
John, Luis, je suis très heureux au nom de l'Institut de France de vous remettre aujourd'hui le Grand Prix européen Énergie 2009 de la Fondation de France pour la douleur et ses traitements. John.
Le lauréat du prix scientifique de la Fondation Simone et Sino del Duca est cette année un mathématicien. Je donne la parole à M. Gérard Laumont, membre de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux de M. Michael Harris.
La Fondation Simone et Sino Del Duca décerne chaque année 3 subventions pour des laboratoires de recherche et un grand prix. Les subventions sont accordées cette année à M. Martin Castelnuovo, chargé de recherche dans la section physique théorique et modèles, au laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon. M. Jean Mérès, directeur de recherche au laboratoire d'informatique algorithmique, fondement et applications de l'Université Paris 7. M. Alain Lecavalier des Étangs, chercheur au CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. La recherche en mathématiques est structurée par des grands problèmes. Les avancées les plus spectaculaires consistent en la formulation ou la résolution de conjectures qui servent de catalyseurs au développement d'une branche des mathématiques durant des décennies, voire des siècles. Ces 40 dernières années, des progrès considérables ont été accomplis, d'une part avec l'élaboration par Robert Langlands d'un immense programme reliant l'analyse harmonique sur les groupes à la théorie des nombres, et d'autre part avec la démonstration en 1994 par Andrew Wiles du théorème que Fermat avait mentionné dans la marge d'un ouvrage il y a plus de 300 ans. Le lauréat du Grand Prix Simone et Sino Del Duca 2009 est Michael Harris, professeur de mathématiques à l'Université Denis Diderot de Paris. Les travaux de Michael Harris sont à la confluence du programme de Langlands et des progrès accomplis par Wiles. Ces deux résultats majeurs, tous deux obtenus en collaboration avec Richard Taylor de l'Université de Harvard, sont la démonstration de la conjecture de Langlands locale en 1998 et celle de la conjecture de Sato-Tate en 2007. Cette dernière conjecture avait été formulée il y a près de 50 ans, indépendamment par John Tate aux États-Unis et Mikio Sato au Japon. Une stratégie due à Jean-Pierre Serre l'avait relié au programme de Langlands et les travaux de Wiles sur le théorème de Fermat avaient permis de faire un premier pas. Elle n'en restait pas moins un défi formidable que Michael Harris et Richard Taylor ont su relever en s'appuyant sur des travaux de Laurent Clausel et Nick Shepherd-Barron. Michael Harris est aussi le leader d'une équipe qu'il a su fédérer autour d'un projet ambitieux pour relier le programme de Langlands à l'arithmétique. Projet matérialisé par la rédaction en cours d'un ouvrage collectif en plusieurs volumes. Après des études aux universités de Princeton et de Harvard, Michael Harris a commencé sa carrière comme professeur à l'université de Brandeis avant de s'installer en France en 1994. Ses travaux ont été très vite remarqués. Il a été invité par les institutions les plus prestigieuses au monde, l'Institute for Advanced Study à Princeton, le Steckhoff Institute à Moscou, le Research Institute for Mathematical Sciences de Kyoto, et aussi par de nombreux départements de mathématiques comme ceux de Columbia, Munster et Oxford, pour n'en citer que quelques-uns. Il est membre de l'Institut universitaire de France et a reçu un grand nombre de distinctions, dont le Grand Prix Sophie Germain de l'Académie des sciences en 2006 et le Clay Research Award en 2007. L'Institut de France et le jury du prix Simone et Sino Del Duca sont heureux de reconnaître aujourd'hui le talent et l'extraordinaire créativité mathématique de Michael Harris.
Nous allons maintenant nous transporter un instant à l'Institut de mathématiques de Jussieu pour y rencontrer Michael Harris et son équipe.
Je savais que depuis que j'ai commencé mes études que Paris était le centre des mathématiques dans ce domaine.
Ils l'ont nul.
jeunesse. À partir du caractère.
C'est le cas, sauf.
Au début, j'étais plutôt orienté vers les sciences. Et donc, j'ai étudié les mathématiques et je trouvais que c'était beaucoup plus libre que travailler en sciences surtout expérimentales où il y avait des contraintes des résultats des expériences, les choses étaient imprévisibles. Avec les mathématiques, ça dépendait essentiellement de moi. Une dizaine d'années, on a décidé de créer, comme on a commencé à avoir un poids. À un certain point, on a décidé de créer une équipe uniquement sur les formes automorphes et le nombre de membres a plus ou moins doublé en 10 ans. Le prix était prévu pour une équipe. C'est une équipe qui travaille ensemble depuis 40 ans. Et donc je pense que c'est relativement rare de trouver un groupe de mathématiciens qui travaille sur une période si longue, sur un domaine si bien défini.
Donc il y a une caractère qui, quelque part.
En général, on utilise les crédits de recherche pour organiser des colloques en dehors de notre enseignement et de la recherche. Ici, c'est l'activité principale. Nous avons nous-mêmes organisé plusieurs colloques dans différents thèmes liés à nos recherches ces dernières années. Ça va continuer. C'est un domaine qui a vu beaucoup de progrès ces derniers temps. Et ces colloques sont l'occasion de confronter différentes perspectives et de faire avancer le sujet.
J'invite Michael Harris à monter à la tribune.
Sir Michael, au nom de l'Institut de France et de la Fondation Sino et Simone Del Duca, je suis très heureux de te remettre le Grand Prix scientifique de la Fondation Simone et Sino Del Duca.
Pour terminer, nous allons maintenant découvrir le lauréat du prix mondial de la Fondation Simone et Sino Del Duca. Je donne la parole à Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, pour évoquer l'œuvre de Monsieur Milan Kundera.
Milan Kundera, auquel je vais avoir l'honneur de remettre aujourd'hui le prix mondial de la Fondation Simone et Cino Del Duca, est un écrivain d'origine tchèque, de langue française et de réputation mondiale. Son étonnant parcours personnel et littéraire répond magnifiquement, on va le voir, au projet des fondateurs du prix qui voulaient saluer ainsi une personnalité et une œuvre incarnant les valeurs de l'humanisme, la dignité de la personne et l'esprit de liberté. Milan Kundera est né en Moravie. Il a vécu deux vies, géographiques, historiques et culturelles, chacune d'entre elles couvrant quatre décennies. La première de ces vies fut tchèque, dominé par le système communiste, dont ce fils d'un grand pianiste et musicologue célèbre, pianiste lui-même, ne s'accommoda jamais réellement. Très tôt, le parti communiste auquel il fallait bien adhérer pour survivre le chassa de ses rangs pour activité hostile au pouvoir. Il fut frappé d'une première exclusion en 1952, d'une exclusion définitive en 1970, ce qui, en dépit des inconvénients pratiques liés à ces mesures, fut pour Milan Kundera une vraie libération. Il est alors dans son pays un écrivain reconnu et respecté. Lorsqu'en 1968, un vent de liberté souffle sur la Tchécoslovaquie, ses deux romans déjà publiés, La plaisanterie et Risibles amours, sont compris comme les messages de la révolte contre le système totalitaire. Milan Kundera devient alors la figure de proue et la référence du mouvement de libération intellectuelle. Et tout naturellement, il en sera, lorsque les chars soviétiques l'auront écrasé, une des victimes. Il y perdra son poste de professeur à l'Institut d'études cinématographiques de Prague. Ses livres disparaîtront des librairies. il sera interdit de publication. Mais la répression qui s'est abattue sur les écrivains tchèques n'aura pas raison de Milan Kundera. Condamné au silence dans sa patrie, il la quitte en 1975 avec sa femme Vera, pour le pays qui depuis longtemps lui est une autre patrie, celle de l'aventure de l'esprit, la France. Dès le lycée, Kundera l'avait découverte grâce aux surréalistes, à Apollinaire, à Sartre qu'il pratiquait constamment, mais aussi grâce à Rabelais, dont les livres soigneusement dissimulés l'avaient accompagné à la caserne, et surtout à Diderot, le maître dont il se réclamera toujours. Ce sera aussi la rencontre avec Aragon qui s'enthousiasme pour la plaisanterie et qui, alors même que les chars soviétiques déferlent sur Prague, préface ce qui tient, il l'écrit, pour une œuvre majeure. En 1975, s'est donc ouverte la seconde vie de Milan Kundera, vie d'exil en apparence seulement. Car la France, qui l'accueille chaleureusement, qui lui offre aussitôt d'enseigner dans ses universités et qui lui donne la nationalité française, est déjà en partie le pays de sa langue. En effet, ses œuvres ne peuvent plus paraître que par l'intermédiaire des traducteurs, mais elles sont d'abord éditées en français. Jamais, depuis qu'il écrit, Kundera ne se sentira aussi libre que dans son exil. Il n'est plus soumis à aucune censure, ni à celle de l'État, ni à la sienne propre, car pour échapper aux rigueurs de la première, il fallait bien, jusqu'alors, que la pensée emprunte des détours et use de la langue d'Ésope. Exilé mais libre, Kundera trouve d'emblée en France le statut d'un écrivain semblable aux autres. Quand il publie le livre du rire et de l'oubli, ce roman voltairien le fait passer d'emblée du statut d'écrivain dissident à celui d'auteur philosophe, de maître de la littérature, et il est libéré de toute connotation politique. C'est alors que la langue française prend toute sa place dans sa vie et dans son œuvre. Dans un premier temps, Milan Kundera entreprend de corriger les traductions de ses livres, dont il a découvert par hasard qu'elle l'avait doté d'un style baroque et fleuri qui le stupéfie. C'est la plaisanterie qui lui fournira pour la première fois l'occasion de contester le travail de son traducteur, dont il dira qu'il a purement et simplement réécrit son roman. Durant quelques années, il se consacre d'abord à ce travail de redressement de son œuvre, mais il publie aussi deux romans qui lui apportent une gloire mondiale. L'insoutenable légèreté de l'être, consacré au mythe nichéen de l'éternel retour et au constat que l'homme ne peut vivre dans sa vie que dans la légèreté et le manque total de responsabilité, puis l'immortalité, réflexion sur le statut de l'écrit dans un monde dominé par l'image, méditation sur le monde moderne qui annonce la rencontre que les lecteurs s'arrachent aujourd'hui. Enfin, en 1993, c'est la première étape du cheminement francophone ou français de Milan Kundera, puisque c'est en français qu'il écrit La Lenteur, prolongeant d'une certaine manière les idées et la critique de la civilisation actuelle de l'Europe, commencée avec l'immortalité. Depuis lors, les romans écrits en français vont se succéder. Je ne peux pas tous les citer, mais L'identité, comédie douce amère sur le malentendu amoureux, L'ignorance, roman fulgurant, poignant, qui tourne tout entier autour de la perte du bonheur, du paradis rêvé, qui condamne les hommes à être de perpétuels exilés, errant dans les ténèbres. Si dans les romans précédents, les héros de Kundera étaient des fugitifs, ici ils sont au contraire poussés par la volonté de renouer avec le passé pour constater que les retours sont autant d'échecs et les retrouvailles des descentes aux enfers. Aujourd'hui, Milan Kundera publie La Rencontre, recueil d'essais qui, avec l'art du roman et les testaments trahis, est une œuvre puissante de critique où, laissant libre cours à son tempérament, il s'irrite de voir disparaître dans la trappe de l'oubli Anatole France, assassiné par André Breton et ses amis, et même par Paul Valéry. Et il porte au nu Les dieux ont soif, roman prémonitoire de l'horreur totalitaire. Il s'indigne de la conspiration de la pensée conformiste qui rejette dans les ténèbres un Sioran ou un Eliot, et il célèbre avec enthousiasme Hermann Brock, Skvoretsky, Céline, Malaparte, mais aussi le grand compositeur Schoenberg et combien d'autres, tous sacrifiés au mythe du monde postmoderne. Kundera s'effraie de, je le cite, vivre l'époque de l'après-art, où l'art disparaît parce que disparaissent le besoin d'art, la sensibilité et l'amour pour lui. Cette époque menace, il le sent, d'un nouvel exil qui serait cette fois un exil intérieur. Et il y répond en lui opposant placé au centre de son livre la rencontre multiple qu'il magnifie, la rencontre des rencontres, celle de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique, il y consacre des pages magnifiques à la culture des Antilles et des Caraïbes et à l'œuvre de René de Pestre et de Patrick Chamoiseau. L'œuvre de Milan Kundera, qui mêle l'humour et le rire à la mélancolie, qui est nourrie des interrogations les plus existentielles, qui unit l'esprit des Lumières et l'imaginaire de l'Europe centrale. Elle est l'œuvre d'un auteur tchèque à l'origine, devenu français, à qui la langue française, langue choisie, adoptée, totalement intériorisée, a permis de dépasser l'exil et de l'échanger pour une patrie spirituelle. C'est un géant des lettres que tous les grands prix mondiaux ont déjà salué et que le prix del Duca s'honore en saluant aujourd'hui. Pouvoir admirer est un bonheur. Que Milan Kundera me permette, au nom du jury du prix, au nom de tous ceux qui assistent aujourd'hui à sa remise, de lui dire notre immense reconnaissance pour ce bonheur qu'il nous offre, sans compter, et qu'il continuera à nous offrir en poursuivant son œuvre magistrale.
Merci, Madame le Secrétaire perpétuel. Je vous propose de retrouver maintenant quelques-uns des membres de l'Académie française qui connaissent bien Milan Kundera et son œuvre et qui ont accepté d'apporter leur contribution à cette séance.
Le prix mondial de Duca, qui va être décerné à Milan Kundera, est un prix extrêmement important qui veut récompenser véritablement une œuvre d'un Français ou d'un étranger, une œuvre littéraire ou humaniste. Alors, à cet égard, le choix de Milan Kundera est un choix tout à fait exemplaire et dont le jury est extrêmement fier. C'est à la fois un romancier, un auteur de théâtre, un auteur d'essais critiques extraordinairement important sur l'art, sur la littérature. C'est un auteur de réflexion politique aussi.
Ce qui a séduit les membres du jury, c'est d'abord la qualité d'une œuvre, et en même temps, le fait que cette œuvre est extrêmement présente, puisqu'elle touche cette question douloureuse de l'homme moderne, aux prises avec l'horreur du totalitarisme et particulièrement du communisme. Elle est un cri de liberté, et en même temps, elle est une œuvre d'art. Donc, je pense que toute cette œuvre est l'œuvre d'un homme qui a été trahi, qui a été floué. Et c'est en cela que c'est une œuvre magnifique, parce que c'est le destin humain. Mais il a exprimé avec cette forme d'esprit, donc d'ironie, qui fait que l'homme est supérieur à ceux qui l'accablent, aux mots qui l'accablent, et au système qui essaie de l'entraîner dans le mal.
Dans son dernier livre, Une rencontre, il y a par exemple un chapitre sur Anatole France. On est tout étonné, on se dit, mais comment il redécouvre Anatole France à son âge, si j'ose dire. Et quand Kundera relit les Dieux ont soif, il découvre que c'est un merveilleux roman sur la vie dans un régime totalitaire. Anatole France, pour décrire la vie à Paris sous la Terreur, eh bien, anticipe tous les récits qui ont été faits au XXe siècle, trouve que c'est une critique tout à fait exceptionnelle, dont il n'y a pas tellement d'exemples, parce que je pourrais dire peut-être Céline, de ce type-là, quand il se met à être critique, il est prodigieux.
Je pourrais dire simplement, voilà un grand écrivain et un des hommes les plus simples que je connaisse, et en même temps les plus compliqués. C'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de tout à fait exceptionnel à la littérature d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi créditer Kundera d'une connaissance de son monde littéraire tout à fait exceptionnelle. C'est quelqu'un qui lit très, très, très bien, qui a une mémoire d'enfer, et qui a écrit avec son livre sur l'art du roman un livre tout à fait capital. Il y a une autre chose qui est tout à fait intéressante chez Kundera, c'est son sens musical. C'est un musicien, c'est un interprète remarquable, un excellent pianiste. Il est formidablement doué. Si je cite cette qualité-là chez lui, c'est parce qu'elle baigne ses romans. C'est un hommage rendu à un très grand homme. Non seulement un grand écrivain, un très grand écrivain, mais à un homme, vraiment quelqu'un de beau, de pur, de droit.
L'Académie française avait rêvé d'élire Milan Kundera il y a quelques années, et Milan Kundera nous avait répondu « Non, je suis un homme du dialogue, mais certainement pas un homme de contact avec le grand public. Je ne peux pas participer à une communauté de ce genre, bien qu'il ait enseigné à l'université, donc qu'il ait tout de même eu les contacts avec les étudiants. Mais ce n'est pas pareil. Là, il se sentait investi d'une mission. J'aurais aimé qu'on le reçoive sous la coupole comme membre de l'Académie française. À défaut, c'est moi qui vais lui remettre le prix. C'est pour moi un jour de très grand bonheur. »
J'invite M. Milan Kundera à monter à la tribune. Mesdames et messieurs, avant de vous inviter à vous rendre en salle Comtesse de Caen, dans le pavillon occidental de ce palais, et de lever la séance, je souhaite une nouvelle fois, au nom de l'Institut de France et des 5 académies qui le composent, adresser nos sincères félicitations aux lauréats pour les travaux exceptionnels qu'ils réalisent dans tous les domaines, des sciences, des lettres, des arts, de l'enseignement et de l'action humanitaire. J'aimerais aussi renouveler l'expression de notre gratitude à tous nos mécènes qui œuvrent à la reconnaissance que méritent tant de talents. La séance est levée.
Vous venez d'entendre la retransmission intégrale de la cérémonie solennelle des Grands Prix de l'Institut de France le mercredi 10 juin 2009.